RCF.
Bonjour à tous et bonjour Philippe Brun. Il y a quelques années, en 2018 très exactement, je vous avais reçu ici à RCF pour décrire le concept même de père aidance, ce qu'il recouvre, à qui il est destiné et pourquoi on devient père aidant comme vous-même. Les années ont passé et j'aimerais que vous nous décriviez non seulement votre expérience dans ce secteur, mais aussi et surtout votre évolution éventuelle par rapport à ce concept et à son bienfait sur les personnes à accompagner. Peut-être serait-il nécessaire déjà au préalable de nous rappeler ce qu'est exactement la père aidance et le rôle du père aidant.
Alors la père aidance, c'est le fait de s'aider entre personnes qui se reconnaissent avoir ou avoir eu un même parcours, par exemple la psychiatrie, la rue, les addictions, etc. Et il y a le travail père qui est une forme de père aidance salariée.
Et qui s'adresse, qui aide les personnes qui ont eu aussi ce parcours difficile.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'un travailleur père va accompagner des gens qui ont une expérience similaire aussi.
Et alors, justement, alors entre la père aidance, enfin le père aidant, et le travailleur social ou de santé, quelle est la différence entre ces deux métiers ?
Il s'agit déjà d'une formation théorique pour le travail social et pour le travail de santé, qui dure quelques années en général, qui est sanctionnée par un diplôme et qui est reconnue pour des compétences définies spécifiquement dans ce cadre-là. Les pères aidants peuvent bénéficier de formation aujourd'hui, mais j'y retournerai volontiers sur cette question. Cependant, on constate beaucoup de parcours de pères aidants qui n'ont pas fait de formation. Beaucoup en ont fait. Et la différence fondamentale, c'est de pouvoir parler de soi, de son expérience, pouvoir se livrer, toujours au service de la personne qu'on accompagne.
Alors justement, si on parle de formation, il existe des formations pour devenir père aidant. Quel type de formation et quels diplômes sont délivrés ?
Alors il existe différentes formations, je ne saurais pas être exhaustif parce que je ne les connais pas toutes, mais il existe deux licences professionnelles à Paris et à Bordeaux. En sciences sanitaires et sociales, qui sont mention père aidance, travail père, médiation de santé père, tout ça c'est un peu la même chose, qui sanctionnent une licence et qui permettent de rentrer directement dans l'emploi dans le secteur sanitaire. Vous avez des formations qui deviennent certifiantes sur plus le volet travail social, père, etc., comme à l'IRTES, comme... à Dijon, voilà différentes formations qui sont apparues sur le territoire français. Et le diplôme universitaire de Lyon aussi, qui par un diplôme universitaire sanctionne un parcours.
Que vous avez d'ailleurs, c'est ce diplôme que vous avez obtenu ? Non, c'est pas celui-là ?
Non, moi c'est le diplôme universitaire de Paris 8, Saint-Denis.
Ah, de Paris 8.
Oui, c'était une formation expérimentale.
Donc à l'IRTES, c'est à Dijon. Enfin, à Dijon, est-ce qu'on a cette formation de père aidant ?
Alors à l'IRTES de Dijon, oui, comme je le disais. Et la Fédération des acteurs de la solidarité également anime une formation de travail père. Et également le CREAI qui sensibilise et qui informe sur la père aidance sur un cycle assez court.
Alors si j'en reviens à vous, à la suite de votre formation, vous avez d'abord travaillé dans la région parisienne, puis de retour à Dijon dans un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Et en 2018, vous avez intégré l'équipe au sein du centre hospitalier La Chartreuse qui mettait en place un projet innovant sur Dijon et qui s'appelle « Un chez-soi d'abord ». Pouvez-vous nous expliquer l'objectif, rapidement, l'objectif de ce projet, mais surtout votre rôle au sein de ce projet ?
Alors l'objectif du projet « Un chez-soi d'abord », ça s'appuie sur un décret qui est sorti en 2016 qui a généralisé sur toute la France l'ouverture de tels dispositifs qui accompagnent des personnes volontaires pour rentrer en logement, qui étaient à la rue et qui ont des troubles psychiques au moment de leur intégration.
Et vous, quel a été votre rôle particulièrement ?
Ben précisément, moi donc j'étais travailleur père, médiateur santé père dans ce dispositif. On a monté le projet avec un certain nombre de personnes avant qu'il voie le jour. Et quand il s'est réalisé, j'ai été embauché en tant que travailleur père pour précisément porter la voix des personnes, défendre leur plaidoyer, pour pouvoir parler leur réalité aussi un peu plus près de ce qu'ils vivaient par rapport à ce que à des a priori ou à des approches plus techniques des travailleurs sociaux, des infirmiers, etc.
Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Brun qui évoque la père aidance telle qu'il la vit dans ses différentes missions. Et donc, une autre mission que vous avez pu entreprendre et continuer et poursuivre. En 2021, vous avez choisi de travailler pour la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté, la FAS. C'est une fédération qui regroupe des associations qui luttent contre la précarité à travers le logement, le travail, la santé, l'insertion sociale, etc. Quelle activité, puisque c'est quand même quelque chose de différent hein, d'un chez-soi d'abord, quelle activité y avez-vous exercé?
Alors, à la Fédération des acteurs de la solidarité, j'ai été chargé de mission, c'est-à-dire un travail plutôt administratif, plutôt porter des projets, développer des projets, accompagner des structures sur la père aidance. J'ai également coordonné la formation des pères aidants qui était portée par la Fédération des acteurs de la solidarité, projet dans lequel j'étais investi depuis plusieurs années déjà en tant qu'intervenant, en tant que conseil, en tant qu'expert de vécu, notamment de la père aidance, et différentes autres missions autour du travail père en général.
Alors, à la suite de ces différentes expériences, hein, on en a parlé de deux, mais je pense qu'il y en a eu d'autres, estimez-vous avoir vraiment pu tenir votre rôle de père aidant et avoir été considéré comme tel, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est lui-même rétabli d'un parcours de vie difficile et qui est donc choisi comme père aidant pour mieux comprendre et mieux aider les personnes en difficulté?
J'ai pu exprimer ce rôle-là et trouver ma place au fur et à mesure des différents travaux que j'ai pu aborder dans ce domaine, que ce soit à l'hôpital pendant 4 années, à un chez-soi d'abord pendant 3 ans. J'ai senti vraiment une place qui se dessinait de mieux en mieux, une expérience qui s'exprimait de mieux en mieux au service des personnes, à leur demande, quand c'était important pour eux de pouvoir défendre aussi leur réalité.
Oui, parce que vous les comprenez mieux.
Je les comprenais finement sur leur parcours.
Alors, vous avez travaillé dans différentes structures hein, depuis 2018. Qu'est-ce qui vous dynamise? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui motive vos choix?
Qui m'a le plus motivé dans ces différents projets, dans ces différents travaux, c'était l'aspect expérimental. Toujours expérimenter des choses de la place du père aidant, de développer une place de père aidant dans un endroit ou de développer des projets par rapport à ça. Ce qui me dynamise le plus aussi, c'est vraiment de pouvoir défendre la réalité des pères aidants à travers un certain militantisme.
Oui, et oui, parce que de toute façon, les structures que vous avez faites lançaient des projets et vous avez participé à ce lancement de projets.
La plupart du temps, oui.
Alors, on dit, bien sûr, qu'il faut ménager les pères aidants, car ils ont une fatigabilité et une fragilité psychique plus importantes qui peuvent entraîner une décompensation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu évoquer ces problèmes lors de vos embauches?
Moi, je pense qu'on colle forcément cette fragilité aux pères aidants. Aujourd'hui, j'ai pu observer beaucoup de pères aidants qui se débrouillaient très bien, qui donnaient très bien leur rythme et qu'on n'avait pas besoin de penser leur rythme au préalable. Que eux pouvaient très bien déterminer leur rythme. Et c'est prévenir justement ce genre d'accidents, entre guillemets, qui font partie du parcours de vie et de rétablissement également, et de l'apprentissage du rythme aussi des personnes par les structures qui embauchent des pères aidants. Et moi, je l'ai évoqué lors de mes embauches, notamment au début, et de fur et à mesure, j'ai évoqué mon parcours. Mais je pense que c'est quand même une rencontre au départ entre un père aidant et un projet.
Oui, c'est ça. Donc vous avez pu aussi bénéficier d'un temps de travail que vous pouviez adapter également.
Ça a pu et j'ai pu être à temps plein, à temps partiel, etc. Ça ne m'a pas posé de problème.
Est-ce que vous vous considérez toujours comme un malade psychique en rémission? Question piège.
Je ne me considère plus comme un malade psychique. Je me suis un peu éloigné de la question de la maladie psychique, de par la place que je voulais mettre à mes difficultés dans ma vie. Donc j'ai déplacé ce problème-là à la question plutôt du parcours, de l'expérience, de l'apprentissage par l'expérience, du rétablissement, toutes ces questions-là.
Et pour vous, après plusieurs années d'activité, quelles sont les compétences, les qualités nécessaires pour être un bon père aidant ?
Il faut être à l'aise avec son parcours de vie, il faut avoir du recul. Et ça, on peut aborder un parcours de père aidant ou une embauche de père aidant sans forcément avoir énormément de recul, mais il faut en avoir un petit peu pour savoir parler de soi. Les qualités nécessaires, elles sont aussi dans l'empathie, dans l'écoute, dans la considération que l'autre est différent, qu'il n'est pas nous, faire attention aux effets miroirs, etc. Ça s'apprend beaucoup dans l'expérience sur le terrain. Ça ne s'apprend pas forcément dans les formations.
Alors Philippe, je ne veux pas être indiscrète, mais pouvez-vous nous dire quel est votre moteur pour réussir votre vie ? Quels sont les projets qui en découlent ?
Mon moteur, c'est l'espoir. C'est l'ambition, non pas personnelle et de carrière, mais l'ambition que des valeurs avancent dans la société dans laquelle on vit, dans les structures qui accompagnent des personnes en difficulté, que ces personnes en difficulté, elles prennent du pouvoir sur leur vie. Voilà, ça c'est les choses, c'est les grandes valeurs fortes et les grandes idées fortes que je poursuis toujours, et que les personnes soient reconnues dans leur dignité entière, dans quelle que soit la structure ou quelle que soit l'institution.
Qu'on considère beaucoup plus la personne que la maladie.
Oui, par exemple, dans ce domaine-là, mais aussi qu'on considère plus la personne que le stigmate qu'on lui pose en général, comme la rue, comme la prison, comme toutes ces choses-là. Et dans les projets qui en découlent, j'aborde un projet parisien avec de la formation, avec du travail pair de terrain, c'est-à-dire de l'accompagnement de personnes qui ont eu un parcours similaire au mien, dans une équipe, hein, chez soi d'abord à nouveau, et de la formation sur le rétablissement et la santé mentale, notamment. Et puis des projets autour des maisons d'arrêt aussi, et du vécu de la prison et de la père aidance en prison, toutes ces choses-là. Enfin, des territoires dans lesquels on n'est pas encore allé peut-être beaucoup au niveau de la père aidance.
Oui, des territoires intéressants en tous les cas.
Toujours.
Eh bien, je vous remercie beaucoup Philippe Brun pour votre témoignage qui nous a permis de mieux appréhender le rôle, la mission, les objectifs du travailleur père. Je vous souhaite de pouvoir vous épanouir dans vos futures expériences professionnelles ainsi que personnelles.